France Musique.
Émilie Munera, les grands entretiens. France Musique.
Je suis Alexandre Tarot, pianiste, insomniaque. Et je n'ai pas d'âge.
Mon père ne voulait pas que je sorte avec Miu. D'ailleurs, il ne voulait pas que je sorte avec quelqu'un, n'importe comment. Darius était critique dans un journal, donc nous allions au concert très régulièrement ensemble. Nous avons toujours été amis. La preuve en est.
La voix, c'est celle, vous l'avez reconnue,
ouais.
De Madeleine Millot.
Madeleine Millot.
Et Madeleine Millot, racontez-nous votre rencontre, votre amitié. Elle a dû vous apprendre tant de choses et en plus, elle a fait le lien avec toute une époque que nous, on peut même pas imaginer encore aujourd'hui. Vous l'avez rencontrée à quel âge, Alexandre Tarot ?
À 8 ans. Mais une époque qu'on pouvait imaginer quand on était face à elle,
j'imagine.
Au 10 boulevard de Clichy, où il y avait sur la table une vieille lettre de Colette ou un manuscrit de Darius Milhaud, des dessins de Satie au mur quand même. Et là, on y était totalement. Alors, je l'ai rencontrée à 8 ans au conservatoire Darius Milhaud, le conservatoire du 14e arrondissement, où j'ai débuté le piano, donc avec Carmen Tacon de Venat, où ma mère était professeure de danse, où ma sœur prenait aussi des cours de musique. Enfin, j'y étais quasiment tous les jours. Et dans ce conservatoire, j'ai rencontré Madeleine Millot lors d'un petit concert pour l'association des amis de Darius Millot. Et Madeleine a été vraiment la cheville ouvrière de cette association et du souvenir vraiment très vivant, très présent de Millot dès le jour de sa mort et jusqu'à sa mort à elle. Et on m'avait demandé de jouer quelques saudades au Brésil, des petits bijoux de Darius Millot pour piano, qu'il a orchestré par la suite. Et j'avais joué, du haut de mes 8 ans, ces saudades au Brésil, à la fin de leur assemblée générale. Et j'ai vu Madeleine Millot, elle m'a parlé, elle m'a regardé avec des yeux comme si elle avait tout compris. Eu ce regard. Elle était toute petite, mais elle avait une grande force. Et quand elle me prenait par mes petites épaules de 8 ans, là, elle pouvait être maternelle, en même temps une sorte de colosse. Et alors après, j'ai voulu la voir. Je suis allé là tout au long de mon adolescence. Et après, enfin jusqu'à sa mort, j'allais la voir très régulièrement, comme un grand nombre de musiciens d'ailleurs. Elle nous apprenait beaucoup. Elle nous parlait de tous les gens qu'elle avait croisés, et pas des moindres, Stravinsky, Leonard Bernstein, Jean Wiener. Et alors, à cette association des amis de Darius Milhaud, donc quand j'avais 8 ans, j'ai retrouvé une photo après, je ne savais pas qui c'était, mais il y avait la Germaine Taillefer, Jean Wiener, Auric, Jean Roy, que j'ai rencontré par la suite, un grand journaliste et musicologue, spécialiste du groupe des 6 d'ailleurs, et de Ravel. Plein de personnalités qui me fascinaient par la suite, mais après, c'était trop tard, ils étaient morts.
Surtout Jean Wiener, que vous avez tant aimé
Jean
aussi.
Wiener, oui, que j'ai beaucoup aimé par la suite. Une grande personnalité de la musique, dont on parle peu.
Peut-être parce qu'il était justement encore entre deux genres, entre le jazz,
lui,
entre
voilà.
Le,
ouais. Lui aussi, il a
le
cherché,
classique, c'est toujours puis, pareil, c'est un peu ouais. Compliqué peut-être pour
voilà.
Le public.
Puis c'était une époque compliquée aussi, et puis c'était l'entre-deux-guerres. Après la Deuxième Guerre, tous les mécènes qui ont porté ces compositeurs, on retrouve la même situation chez certains compositeurs du groupe des 6, comme Germaine Taillefer ou Louis Duret, qui ont été abandonnés par ces mécènes. Polignac et autres, comtesse de Noailles, qui étaient les porteurs de ces artistes et qui, après la guerre, n'étaient plus là. Et le monde musical, l'échiquier de la musique classique en France était totalement différent. Et ces artistes-là se sont retrouvés un peu perdus et en quelques années ou en quelques mois, on les a oubliés.
C'est un peu dommage qu'il n'y ait plus de salon comme ça, où on pouvait se rencontrer, où on rencontrait non seulement des musiciens, mais aussi des peintres. Enfin, je pense à toute cette époque, puisqu'on parle de Jean Vienard, du Bœuf sur le Toit, où tout le monde se retrouvait finalement. On a l'impression que tous les arts aujourd'hui sont cloisonnés et on voit de moins en moins de ruches comme celle-là, ouais. Comme ça a pu être à l'époque. Vous me direz, c'est peut-être aussi l'époque où on bouge beaucoup, il y a des avions, il y a Internet, il y a tout ça. Peut-être que ça...
Non, Internet ne nous rapproche pas. Alors, les mondanités, pas pour moi. Les courtoisies, les courbettes, les petits fours. En général, je suis assez maladroit et les gens me trouvent froid. Et parce que je sens que je n'ai pas du tout les clés pour jouer le rôle que doivent jouer les pianistes autour des petits fours et des coupes de champagne. Mais par contre, créer des ponts, j'en ai créé pas mal finalement. Enfin, faut y aller quand même, faut aller au charbon. Alors qu'à l'époque, je reviens à mon grand-père, je sais qu'il allait du côté de la Porte Saint-Martin, il y avait un café qui existe toujours, où se retrouvaient tous les musiciens de jazz, de java, de tango, mais aussi de Berlioz et de Beethoven, de cinéma, qui allaient là et qui se refilaient les cachetons, ce qu'on appelait les cachetons. Et tout le monde parlait ensemble. Et ils cherchaient des petits boulots à droite à gauche. Et les musiciens jouaient autant la musique des bals populaires que les grandes symphonies de Mozart ou de Beethoven. Donc on ne se posait pas la question. Et les musiciens se connaissaient entre eux. Aujourd'hui, on ne se connaît pas.
Et surtout, c'est suspect aujourd'hui. Un pianiste classique qui va trop jouer de variété ou on va dire « il joue peut-être pas très bien, peut-être que c'est pour ça, c'est un peu plus... »
Je ne sais pas. Je crois que de moins en moins. Et puis après, chacun a ses goûts. J'ai eu la chance de pouvoir, grâce à ma maison de disques ou grâce à des amis que j'ai rencontrés, avoir des expériences extra musique classique, mais qui étaient des expériences de musique. Enfin, mais elles sont rares. Enfin, quand on les met bout à bout, ça fait une liste amusante, mais elle reste assez rare dans ma vie.
La musique française, il y a Millot, il y a Poulenc, il y a aussi Chabrier, que vous avez...
Chabrier, pilier de la musique française.
Et que vous aimez énormément. Encore un compositeur qui a écrit beaucoup de chefs-d'œuvre, mais qui reste finalement dans l'ombre.
Bizarre, hein.
Qui faisait de l'orchestre au piano, pratiquement.
Oui, absolument. C'est un orchestre quasi wagnérien. Lui, le grand défenseur de Wagner à son époque, il n'était pas nombreux, enfin en France, il a inventé tellement de couleurs au piano, les contrechamps, l'utilisation de la main gauche, aussi il a écrit des menuets, il a repris des danses baroques, donc il a créé un lien avec la musique, ses arrière-grands-pères qui étaient Rameau et Couperin. Comme vous le dites, il a créé un piano orchestre. On n'avait pas encore ça dans la musique française. Au 19e siècle, on a le piano orchestre de Liszt. Mais Liszt n'est pas français, même s'il a vécu de longues années à Paris. Et les compositeurs français du 19e siècle, bon, il y a Saint-Saëns, c'est vrai. Mais les autres, Alcan, ou des compositeurs qui n'étaient quand même pas des génies. Mais oui, c'était la notion d'orchestre dans le piano. Je trouve qu'en France, elle arrive par Chabrier.
Thank you.
Émilie Munera, Les Grands Entretiens, France Musique.
Et vous parliez des arrière-grands-pères de tous ces compositeurs. Vous avez évoqué Rameau, et c'est justement après cette période aussi de musique française. Est-ce que c'est tous ces compositeurs du 19e siècle qui vous ont fait aller vers la musique de Jean-Philippe Rameau?
Je devais, pour la petite histoire, je devais enregistrer ce disque Rameau pour Erato. À l'époque, Erato a été racheté par Warner. Et Warner a liquidé Erato, donc Erato s'est arrêté au bout de quelques mois. Mais avant d'être racheté par Warner, je devais faire mon disque Erato, mon disque Rameau pour Erato, et ça devait être le premier de 3 disques consacrés à divers compositeurs. Il y avait Villa-Lobos, je me souviens, je crois, un disque Bizet. Erato s'arrête brutalement, et le directeur d'Erato, qui est un homme que j'aimais beaucoup, Didier Durand-Mancel, appelle plusieurs maisons de disques, dont Harmonia Mundi et Vakoutaz, en leur disant, voilà, il y a notre jeune pianiste qu'on devait prendre là, les dates d'enregistrement sont prises, le piano est loué, tout est prêt, c'est dans 2 mois, et est-ce que ça ne t'intéresserait pas? Et Vakoutaz, qui me connaissait, parce que j'avais déjà enregistré quelques disques de musique de chambre pour elle, a dit pourquoi pas, c'est assez original d'enregistrer de la musique baroque. En effet, c'était presque un pied de nez d'enregistrer Rameau dans le label de la musique baroque. Rameau au piano. Et voilà comment je me suis retrouvé dans l'équipe Harmonia Mundi. Et j'ai enregistré ce disque comme les autres, c'est-à-dire en faisant mon travail. C'était égoïste, c'était parce que je savais qu'en enregistrant Rameau, ben, j'allais à nouveau avoir une nouvelle étape dans ma vie, et que ce disque allait rebondir sur un prochain travail, et qu'il se vende ou qu'il se vende pas, je m'en fichais. On pensait pas qu'il aurait du succès. Et voilà, et ce disque est sorti, et je dois dire qu'il y a Renaud Macha qui a fait une page ou presque une page entière dans Le Monde le jour de la sortie du disque, qui coïncidait aussi avec un concert que je faisais dans une petite salle parisienne. Et je suis vraiment un article merveilleux, et je pense aussi que les autres journalistes ont suivi. S'il n'y avait pas eu cette page, est-ce que les autres auraient... Je ne sais pas. Bon, voilà, bref.
On ne saura jamais.
Il s'est passé un truc, voilà, je n'ai pas joué mieux du jour au lendemain. Il s'est passé un truc assez phénoménal, mais qui m'a fait plaisir, enfin qui m'a soulagé, qui a soulagé mon agent aussi. En quelques semaines, on a reçu... Catherine Lebris, mon agent, a reçu un nombre incalculable d'appels de France et du monde entier, enfin de pays différents, de l'Asie, des États-Unis, du Canada, de l'Europe, parce qu'ils voulaient absolument du Rameau. Alors on s'est amusé, on rigolait beaucoup, hein, quand Catherine m'appelait, elle me disait « il y a encore quelqu'un qui veut du Rameau ». On s'amusait, j'étais tout content.
Mais ça, vous l'avez bien vécu? Comment vous l'avez vécu, ce passage de l'ombre à la lumière, quelque part?
Ben, comme quelqu'un qui, de toute manière, sait ce que c'est que l'ombre et qui peut y retourner, donc avec du recul, parce que c'est, grosso modo, c'est 10 années dans l'ombre, ben, elles m'ont appris plein de choses, et voilà. Et là, j'avais l'opportunité de jouer, ben, j'ai joué, j'ai foncé, j'ai mis de côté la musique de chambre. Pas d'un coup, mais petit à petit. Au point qu'aujourd'hui, je ne joue quasiment pas de musique de chambre, sauf avec Jean-Guyenne Queyras, qui est vraiment mon partenaire régulier. Mes concerts sont consacrés à l'exercice du récital et aussi à celui du concerto avec orchestre. Et c'est parti de là, c'est parti de Rameau.
Thank you.
Et tout d'un coup, les gens étaient heureux de m'entendre. J'ai découvert que je pouvais donner des récitals de piano devant un public qui était heureux. C'est pas rien, mais vraiment, quand je le dis, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Ce public qui s'est élargi d'un coup, et puis après, s'est élargi chaque année un peu plus. Eh bien, je pense que ce public a senti qu'il y avait de la reconnaissance de mon côté. Et aussi une soif de lui. Une soif d'être en contact avec lui. Parce que, depuis l'âge de 5 ans où je faisais ces rôles de figuration ou quand je dansais pour les spectacles de mes parents, je n'avais qu'une idée, c'était de vivre la scène. Et cette période de vache maigre, après le conservatoire, pendant quelques années, qui paraissait sans fin, c'était une période très constructive, mais il me manquait la scène, il me manquait le public. Et d'un coup, je l'ai eu, ce public. Et je savais que je pouvais le perdre, mais j'ai tout fait pour le garder parce que ce public-là était essentiel dans ma vie. Je le savais profondément, je le savais pertinemment, depuis l'enfance. L'expérience de la scène est tellement inouïe. Le rapport avec le public, les émotions que l'on ressent sur une scène.
On ressent un public, Alexandre Tarot, on ressent quand on rentre sur scène.
Oui. Dans la seconde. On rentre sur scène, on passe d'un monde à un autre, en fait. On passe de la vie de tous les jours à la vie avec un grand V. C'est une sorte de saut en parachute. De saut en parachute. Ça fait peur. Comme le saut en parachute. J'ai pas fait de saut en parachute, mais j'imagine que c'est à peu près la même sensation. On saute dans le vide. Et ce vide, ça c'est la sensation dans les premiers pas sur la scène, qui débouche sur un déferlement de claquements de mains. Et ces claquements de mains, c'est un public. Qu'il soit de 4 personnes ou de 3000 personnes, c'est le même déferlement, c'est la même intensité. Et ce public vous dit bonjour, enfin il ouvre le concert par ses applaudissements, il ouvre le cadre du concert, et puis on s'assoit. C'est très sobre un récital de piano, hein. On s'assoit, on est habillé en noir, avec quelque chose de très austère, on met les mains sur le piano, et dès la première note, il se passe quelque chose. Ça c'est magique, vraiment il se passe quelque chose entre nous. On joue pas seul sur scène avec un public qui nous écoute, non, on joue ensemble. Il y a 2000 personnes dans la salle, on est 2001 personnes à jouer. Donc chaque minute d'un concert, chaque minute, c'est me nourrit. Et après un concert, alors oui, cette solitude, mais c'est rien la solitude. C'est rien à côté. Pas seul. Quand on est au bout du monde, on est connecté avec ses proches. Je vous disais dans un autre entretien que je n'étais pas seul sur scène parce que je ne sais pas faire mes deuils et que mes morts, les morts qui ont jalonné ma vie, ils ne sont pas morts. Alors je suis là avec mes morts et mes morts, ils ne sont pas tristes. Mais ils jouent avec moi et sous mes doigts, il y a mes morts. Et je les fais chanter, je les fais travailler, mes morts. Et puis je les aime et je parle avec eux. Dans mes chambres d'hôtel, je paye. Ça peut faire rire peut-être certains auditeurs, mais non. Non, je sais pas triste de parler à ces morts. On parle. Ils me répondent pas forcément. Parfois, c'est un silence un peu désagréable. Mais je leur parle et puis ils m'énervent. Je les engueule, mes morts. Mais ils sont là. Et puis, il y a les non-morts, ma famille, mes amis, mes essentiels, les gens avec qui je bâtis ma vie. Alors, je les appelle ou on s'envoie des petits textos et puis ils sont là, enfin... Donc c'est une solitude sans être une solitude. On peut être très seul au milieu de 3000 personnes.
parlez des morts, vous parlez souvent du passé. Vous portez, on a l'impression que vous portez, qu'il y a toujours un regard sur ce qui s'est passé avant.
D'abord parce que là, on parle de mon parcours. Et puis aussi parce qu'un pianiste, c'est quelqu'un qui joue la plupart
que
du temps
morts.
La musique du mort. Hein, des morts,
c'est,
hein, c'est Rubinstein qui disait qu'il était habillé en croque-mort devant un instrument qui ressemblait à un cercueil. Le rituel du récital de piano est assez morbide. Finalement, il s'est gravé dans le marbre dans les années 1830-1840 et n'a pas beaucoup bougé depuis, avec ce public qui ne bronche pas, à qui on demande, contrairement au public de la pop, de la chanson, du rock, qui lui peut allumer des briquets, s'extasier, crier, donner de sa voix, donner de son identité, apporter sa propre pierre au concert. Dans un concert classique, le public ne doit pas, il ne doit pas y avoir une tête qui dépasse. Et si une petite dame ouvre un petit bonbon pendant une sonate de Schubert, tout le monde fait chut, ce qui fait encore plus de bruit que le bonbon. Bref, et puis surtout, on n'a pas le droit de donner son avis sur les musiciens, mais sur les compositeurs. Ce sont c'est Brahms, c'est Chopin, c'est Liszt, c'est Rachmaninoff, sont inatteignables, intouchables. Pourquoi ? On peut très bien critiquer une œuvre de Brahms. Non, c'est hors de question. Et je suis persuadé que si on critique autant les interprètes, c'est aussi parce que on n'a pas le droit de critiquer les œuvres qui sont jouées. Voilà, alors ce public est aussi d'une certaine manière morbide. Enfin, disons qu'on lui demande d'avoir un silence de mort.
Est-ce que ça pourrait en être autrement ?
Bah, absolument.
Vous pensez, est-ce que beaucoup disent, certains artistes disent, en même temps, c'est difficile parce que nous, on va être concentrés quand on joue. Alors, si tout le monde se met à faire du bruit et à hurler dans tous les sens comme à un concert de pop, on peut plus se concentrer.
N'oublions jamais que quand Chopin jouait, dans les salons, ça allait, ça venait, les femmes s'évanouissaient avec leurs corsets, on buvait, on parlait à voix haute. Et quand il jouait, alors je sais que par exemple à Paris, au théâtre italien, ça jouait au jeu de cartes, au jeu d'argent dans les loges du théâtre. Les gens parlaient à voix haute, les gens criaient. Alors reculons dans le temps, Mozart jouait un concerto, lui au pianoforte avec un petit orchestre derrière lui. Puis les gens applaudissent frénétiquement en plein milieu du concerto parce qu'ils ont aimé un thème. Alors Mozart se lève, salue, il arrête tout le monde. Puis il demande à l'orchestre, alors il se rassoit, puis il rejoue. Le thème qu'il venait de jouer. Donc la structure même de l'œuvre est détruite, mais c'est le public qui a choisi. Alors, il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier aussi que ces compositeurs, quand ils ont écrit ces œuvres-là, les ont imaginées avec ce public-là. Ils n'ont jamais imaginé qu'un public... Je suis persuadé que ces compositeurs n'ont pas imaginé qu'un jour, plus personne ne broncherait dans la salle.
Thank you.
Le final du concerto Jeune homme de Mozart par Alexandre Tarou, accompagné par les violons du roi et Bernard Labadie. Et encore une fois, on a parlé beaucoup de musique française dans cette émission, dans ce grand entretien. Et on a fini avec Mozart et nous ouvrirons demain avec la musique de Jean-Sébastien Bach, l'occasion donc d'entendre Alexandre Tarou dans d'autres répertoires. Alexandre Tarou, c'est demain à 13h pour la suite de ce grand entretien. Merci à Gilles Blanchard, Cédric Chatelus, Céline Trois Nouvelles et Georges Thau.
À réécouter sur francemusique.fr.